Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue dans Maghreb Express. Longtemps réduite à l'anecdotique ou carrément enterrée, la sexualité dans les empires coloniaux et la domination des corps sont aujourd'hui des sujets de recherche majeurs. Jamais ces questions, ces héritages n'avaient fait autant débat dans nos sociétés. Il y a un an paraissait un livre qui créait une immense polémique, Sexe, race et colonie, non pas par le sujet qu'il abordait mais par les photos qu'il contenait. Un an plus tard, une cinquantaine de chercheurs, qui ont pour la plupart contribué à cet ouvrage-là, reviennent avec un nouvel ouvrage, cette fois-ci « Sexualité, identité et corps colonisés » aux éditions du CNRS. C'est l'occasion de mesurer à nouveau l'impact actuel de la domination coloniale et sexuelle sur les imaginaires, dans nos sociétés, les sociétés jadis colonisées comme les sociétés occidentales, notamment au Maghreb. Nous allons battre en brèche les clichés et les fantasmes qui remontent à cette période avec nos deux invités, deux historiennes engagées, deux féministes qui ont participé à cet ouvrage. Christelle Tarot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la co-directrice de cet ouvrage, comme vous avez été également la co-directrice de Sexe, race et colonie qui avait été publié aux éditions La Découverte. Vous êtes spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et des sexualités, en particulier au Maghreb. Et bien sûr, en contexte colonial. Naïma Yahi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également historienne. Et vous, l'une de vos spécialités, ce sont les musiques maghrébines. Vous êtes d'ailleurs titulaire d'un doctorat qui porte sur l'histoire culturelle des artistes algériens en France. Avant de plonger dans le vif de ce livre, j'aimerais qu'on revienne sur cette polémique qui a emporté, il y a un an, le monde de la recherche autour de sexe, race et colonie. C'était un livre qui nous montrait comment les représentations de genre par le prisme de la race, construites à cette période, ont eu un impact considérable sur l'héritage des cultures européennes. Sa sortie a suscité en France une polémique importante à cause de ce fond photographique, des images, plus de 1600, où il y avait à la fois des peintures, des gravures, des cartes postales, des affiches, des couvertures de magazines, des images pornographiques. Et donc, il y a eu un tollé, il a été accusé entre autres d'esthétisation de l'insoutenable, de négation des droits des personnes représentées, de sensationnalisme voyeuriste ou encore de pornographie. Aujourd'hui, vous publiez ce livre-là en vous inscrivant dans le prolongement de ce livre, tout en vous en démarquant, notamment en faisant le parti pris de ne pas mettre cette fois d'image, c'est uniquement du texte. Est-ce que c'est un mea culpa ou est-ce que, au contraire, c'est le même ouvrage? Sauf que cette fois-ci, il y a une validation scientifique puisqu'on publie au CNRS. Christelle, je m'adresse à vous.
Non, ce n'est pas du tout un mea culpa, parce que je continue à penser que le livre que nous avons publié en 2018, qui était déjà le produit d'un champ entier, hein, parce que, comme vous le soulignez, il y avait plus de 1600 images, mais il y avait aussi un nombre d'auteurs très conséquent, plus d'une centaine d'auteurs répartis sur 5 continents, dont l'essentiel d'ailleurs était des grands spécialistes de la question. Donc, il n'y avait pas vraiment de mea culpa à faire. Peut-être la mise à distance éventuelle que nous pourrions avoir, si on parle de ce livre, c'est de dire que, effectivement, parfois, quand on est spécialiste d'une question, et notamment lorsqu'on travaille sur les images, on peut parfois perdre de vue le fait qu'elles peuvent être... C'est pas qu'on sait pas qu'elles sont violentes, bien sûr qu'on sait qu'elles sont violentes pour certaines, parce que toutes ne le sont pas, mais peut-être parfois on oublie qu'il faut peut-être mieux les encadrer, mieux les expliciter encore. Donc c'est le travail d'ailleurs que nous allons mener l'année prochaine, puisque Sexe, race et colonie va être publié dans une version anglophone avec un appareil de notes pour le coup très conséquent, hein, puisqu'il y a à peu près 40% des images du livre qui vont être cette fois-ci explicitement commentées. Donc ce n'est pas du tout un mea culpa, c'est un autre livre. Le premier livre, c'était un livre grand public, parce que justement son objectif, c'était de montrer toutes les recherches qui ont lieu depuis 30 ans, et de permettre au plus grand nombre de pouvoir y avoir accès, tout en montrant aussi que la violence coloniale a aussi été une violence au travers des représentations, et que, bien sûr, les images, dans leur complexité, dans leur diversité, étaient importantes. Donc là, c'est un autre livre.
Pourquoi sans images ?
Bah, parce que ça n'a pas vocation, ça n'a pas d'intérêt de refaire un autre livre avec des images, parce que sinon on referait le même livre, enfin, ou un livre un peu différent, mais enfin qui ne serait pas non plus révolutionnairement singulier par rapport au premier. Donc là, c'est une autre démarche. C'est une démarche que je pourrais définir comme plus scientifique. C'est d'ailleurs pour ça que le livre est publié aux éditions du CNRS. C'est un ouvrage qui s'adresse peut-être un peu plus à la communauté scientifique, qui est plutôt, peut-être plus un espace de débat justement entre spécialistes ou non spécialistes, mais appartenant au monde académique et qui s'intéresse à ces questions-là. Et puis surtout, ça nous permettait aussi de régler une frustration, parce que, évidemment, on avait demandé à beaucoup, beaucoup d'auteurs d'écrire des notices. Or, les notices étaient microscopiques. Et donc, on avait une frustration et on avait envie de demander à un certain nombre d'auteurs dont on aime beaucoup les travaux, dont Naïma, de proposer des articles plus importants. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans Sextras et Colonies, parce qu'il fallait laisser évidemment la place aux images.
Alors, Naïma, vous n'avez pas collaboré à Sextras et Colonies. En revanche, Sexualité, Identité et Corps Colonisés, vous y participez. Vous avez consacré un article aux danseuses du ventre. On y reviendra un petit peu plus tard au cours de l'émission. Comment, à l'époque, vous avez vécu cette polémique autour de Sextras et Colonies ?
Ben, pas très bien, parce qu'effectivement, je connais de nombreux auteurs qui participent à la publication. Hein. Tu le rappelais, une centaine de chercheurs qui sont courageux, pionniers, qui ont fait émerger cette thématique dans le monde académique. Mais je connaissais aussi leurs détracteurs qui ont des approches qui sont intéressantes, qui ont ouvert un débat de manière plus ou moins courtoise, j'en conviens. Mais là où moi j'étais un peu abasourdie, c'est sur la prise d'otage médiatique de ce dialogue qui devrait se faire dans le cadre académique, ou j'allais dire même dans le cadre des librairies, si on voulait aller au-delà des polémiques au-devant du grand public. Et il y a eu un certain nombre de débats qui ont accompagné la présentation de l'ouvrage. Mais cette hystérisation des échanges écrase toute contradiction. À partir du moment où vous avez une centaine d'auteurs, vous imaginez bien qu'il y a eu des débats, des échanges d'expériences, des oppositions, des négociations, un consensus enfin qui fait que l'ouvrage existe. Et je pense que c'est une insulte à notre intelligence collective que de croire qu'il y aurait donc deux camps, ceux qui seraient pour, ceux qui seraient contre. Moi, pour ma part, par exemple, j'apprécie le fait qu'il y ait eu un travail plus académique qui a été proposé. Et c'était un honneur pour moi de rejoindre mes camarades pour pouvoir m'y consacrer. Je dirais simplement que là où nous devons réfléchir collectivement, c'est sur notre capacité à évoquer scientifiquement et même dans le débat public des problématiques liées à ces questions postcoloniales. Nous le voyons chaque semaine, presque chaque jour, à coups de tribunes et d'articles, on renvoie dos à dos deux camps fantasmatiques, puisque ces camps n'existent pas. J'ai presque envie de parler de nuances, de générations de chercheurs, d'une épistémologie qui n'est pas toujours la même. On a en face une demande sociale qui est forte, notamment de ces enfants de colonisés, qui réclament une part d'histoire, mais aussi de patrimoine des conflits. Et je pense que Christelle Tarot ou Pascal Blanchard ou d'autres ont fait œuvre citoyenne depuis plusieurs années, pour ne pas dire plus, en travaillant à publier, contextualiser, à réfléchir. Et je pense que ces procès d'intention sont douloureux parce qu'il y a des critiques qu'on peut entendre. Le débat doit être avant tout scientifique et nous permettre d'aller plus loin dans la connaissance, la prise en charge d'un passé qui ne passe pas, d'un passé douloureux, d'un passé qu'il faut regarder en face. Et je pense que ce prolongement de l'ouvrage au CNRS nous donne l'espace et le temps que ne nous offre pas un beau livre quand il est diffusé auprès du grand public. Je pense que le public qui va s'emparer de cet ouvrage n'est pas forcément le même, n'est pas forcément aussi large, puisque le premier livre a eu un succès important en librairie. Mais je pense qu'il nous donne le temps de poser les termes du débat, de le documenter et de donner envie, je l'espère, dans les prochaines années, aux étudiants de se saisir de certains aspects et d'aller plus loin.
Pourquoi la sexualité en contexte esclavagiste, colonial ? postcoloniale reste aussi difficile et sensible, alors que c'est quelque chose de fondamental pour analyser et comprendre nos sociétés.
Je crois que parce que beaucoup de gens, des individus, des groupes et même des sociétés entières, imaginent que la sexualité, c'est quelque chose de privé, d'intime et de préservé. Que ça nous appartient et que donc lorsque c'est jeté sur la place publique, eh bien ça renvoie soit à des choses qu'on n'a pas envie de montrer, soit à des choses qu'on veut au contraire préserver parce qu'on les pense très importantes. Mais je crois que c'est une erreur tout à fait fondamentale, parce que la sexualité n'a rien de privé. La sexualité est puissamment politique, c'est un enjeu majeur du pouvoir et de la domination, depuis toujours. Depuis toujours. Depuis l'histoire ancienne et probablement même avant, depuis les sociétés proto-historiques et même préhistoriques, la sexualité, parce qu'elle est liée notamment à la reproduction, a été un enjeu majeur de pouvoir. Or, le pouvoir, il a été, dès l'origine, accaparé par les hommes. Donc, en fait, la sexualité, c'est un enjeu très important de rivalité entre les hommes. Et évidemment, le véhicule de cette rivalité, bah, en général, ce sont bien sûr les femmes. Donc, c'est quelque chose qui est absolument central. Et lorsqu'on travaille sur un domaine lié à la sexualité, prenons la prostitution, bah, on s'aperçoit que la prostitution, elle n'est pas périphérique, marginale, mais qu'elle est au cœur de la société et qu'en fait, elle intéresse tous les domaines. C'est-à-dire que lorsqu'on est historienne de la prostitution, on est forcément dans l'intersectionnalité, parce qu'on doit faire de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire des représentations, de l'histoire de l'intimité, de l'histoire de l'urbanisme et de la ville, etc., etc. Donc, voilà, donc il y a cette tension inhérente, je pense, à ce sujet de recherche qui consiste à penser que c'est ce qui est le plus intime et le plus privé en nous. Et encore une fois, je pense que c'est une erreur extrêmement importante.
Le parti pris du livre est de l'avoir construit en plusieurs thématiques, mm-hmm. et non pas en prenant un fil chronologique. 5 parties, chacune axée sur un thème. Une première partie concentrée sur les discours, les fantasmes, les imaginaires. Une autre sur sexualité, prostitution, corps. Note sur la science, race et ségrégation, domination, violence et viol. Et enfin, spectacle, nouveau territoire de l'érotisme, du cinéma et des mises en scène. Pourquoi ce choix ?
Ben, parce que la chronologie, les plans chronologiques, franchement, on n'en fait plus depuis des siècles. Hein. Déjà, d'abord parce qu'ils sont répétitifs, donc c'est un peu... voilà. Et puis aussi parce qu'on avait, on avait envie de revenir sur un certain nombre de thèmes, de focus qui nous paraissent vraiment des grandes entrées précisément dans cette question. Donc bien sûr, on a commencé par le commencement, si j'ose dire, c'est-à-dire par la rencontre, les rencontres qui, tout en étant bien sûr des rencontres qui ne sont absolument pas symétriques dès l'origine, reposaient quand même beaucoup plus sur une sorte de sidération par rapport à la découverte de l'autre, des autres. Et puis on va, bien sûr, donc de l'origine, c'est-à-dire des premiers empires coloniaux hein, du 15e, 16e siècle, et puis on va jusqu'aux temps postcoloniaux, parce que, évidemment, que cette histoire, elle continue à nous travailler. Elle nous travaille individuellement, elle nous travaille collectivement. Les héritages sont là, qu'on le souhaite ou pas, qu'on l'accepte ou non. Ils nous travaillent. Ils travaillent les enfants issus des mondes colonisés. Ils travaillent aussi les enfants issus des mondes coloniaux. Et l'objectif, c'est quand même d'arriver à faire une histoire commune. Parce qu'à cette table, il y a des enfants issus des mondes colonisés et puis il y a des enfants issus des mondes coloniaux. Hein, donc c'est possible en fait de faire cette histoire ensemble et de la faire dans un respect, une empathie vraiment revendiquée comme un espace de travail. C'est pour ça que j'adhère tout à fait à ce que disait Naïma tout à l'heure, c'est à l'hystérisation, ça nous empêche de travailler ensemble. Et cette histoire, on pourra la faire qu'ensemble.
Alors prenons quelques-uns de ces mythes et fantasmes qui continuent de perdurer aujourd'hui. Donc il y en a un sur lequel vous avez travaillé, Naïma, c'est la danseuse du ventre, qui vous conduit à un autre fantasme qui est celui de la beurette, comme vous l'écrivez en introduction de votre chapitre. De nos jours, c'est la figure stéréotypée de la beurette, qui prend la relève au sein des catégories pornographiques, notamment sur le net, domination du corps des femmes arabo-orientales, objet de désir et outil d'humiliation des sociétés patriarcales d'origine. Ces héritières de Salomé, de Sherazade, sont assignées presque par automatisme à la prostitution qui découle de cet asservissement avant de commencer à devenir, au tournant des années 50, des artistes à part entière. Écrivez-vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce mythe de la danseuse du ventre et comment il a progressivement cédé la place à celui de la beurette ?
Oui, le thème pourrait paraître trivial. Aujourd'hui, nombreux et nombreuses sont ceux qui prennent des cours de danse du ventre, orientale ou autre, et qui n'y voient aucun inconvénient, ni aucune, aucune dimension péjorative, mais plutôt... une forme d'expression un peu sexy de la danse aujourd'hui. Je pense que ce genre de danse a été autant fantasmé que charrié dans les bagages du fait colonial. On a, et l'ouvrage y revient à plusieurs reprises, un certain nombre de jalons que sont les expositions universelles et coloniales, qui avaient leur part de spectacle, plus ou moins mis en scène dans des décors en carton-pâte. Et ces artistes, ou ces pauvres filles, puisque... souvent, malheureusement, c'était des femmes en rupture de ban qui se retrouvaient sur les scènes, notamment, puisque je prends le cas métropolitain, des cabarets orientaux à Paris. Et cette gémellité avec la question de la prostitution, et Christelle y reviendra, est une réalité pour ces femmes, qu'on pourrait qualifier plus tard d'artistes, qui vont d'abord répondre à ce besoin d'exotisme et d'Orient fantasmé, dans le cadre de ces spectacles assez hallucinants qui vont avoir lieu de manière assez récurrente de la fin du 19e au début du 20e, et ensuite de manière figée dans ce carré d'or qu'est le Quartier Latin, et ces nuits parisiennes popularisées par les cabarets qui fermaient leurs portes en début de soirée pour des nuits blanches prisées par le Tout Paris. Le cabaret préféré de François Mitterrand, c'était le El Jazair. Certaines de ces danseuses, comme Scheherazade, bien sûr ce n'est pas son vrai prénom, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, nous racontent les mœurs, le profil sociologique des filles qui faisaient la vie, me dit-elle, pour ne pas dire autre chose, et qui étaient aussi des vedettes. Et ce vedettariat un peu tardif de ces danseuses du ventre fait suite à d'autres qui les ont précédés et qui ont marqué la chronologie de ces spectacles qui sont présents dans la peinture, dans la littérature, le cinéma. Et c'était intéressant que dans l'ouvrage, on évoque la dimension culturelle de ces imaginaires. Et je pense effectivement que cet héritage sur le corps des femmes arabo-berbères en France est une réalité jusqu'à ces travaux plus récents qui portent sur la figure de la beurette, hein, cette catégorie pornographique qui écrase ce label, et qui aujourd'hui est une réalité qu'on pourrait appliquer à d'autres catégories diasporiques, femmes asiatiques, noires, etc. Je pense qu'il y a une filiation sur le temps long de ces imaginaires sur les corps. Je pense que Christian parlera bien mieux que moi sur cette dimension de ces hommes, comme elle l'a rappelé en introduction, qui se disputent ou qui humilient le corps du femme des autres pour leur montrer leur statut d'inférieur. On infériorise l'indigène en s'emparant du corps de leur femme. Et ça, c'est extrêmement important.
Pour rebondir sur le mythe de la beurette, ce qu'on appelle le porno colonial.
Oui, le porno colonial est extrêmement diversifié, hein, et il est le produit direct, en fait, de cet univers fantasmatique qui, d'ailleurs, est très clivé, très catégorisé, et donc très artificiel, parce qu'en fait, on va constituer des idéotypes, disons. La maghrébine, évidemment, pour la France, est très importante dans cet univers fantasmatique. Mais on a aussi, bien sûr, la femme africaine subsaharienne, on a bien sûr la femme asiatique, etc., etc., la tahitienne. Et tous ces idéotypes, en fait, ils renvoient à une forme de catégorisation physique, mais aussi psychologique et comportementale. Et bien sûr, dans cet univers-là, les danseuses du ventre sont évidemment très importantes. Et d'ailleurs, dans le porno colonial, on observe qu'il y a une sous-catégorie de ce que moi j'ai appelé les porno-odalisques, C'est-à-dire, on a tout un style de film pornographique, précisément, où on joue de cette idée de Salomé ou de Scheherazade qui vont, au fur et à mesure du film, bon, évidemment, se dévoiler, se dénuder, et puis ensuite, évidemment, passer à la sexualité proprement dite.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en étudiant la prostitution, on pouvait comprendre tous les enjeux de pouvoir. Comment s'est généralisée la prostitution au temps colonial ?
Alors, la prostitution existait déjà avant dans les sociétés précoloniales maghrébines, mais d'une manière complètement différente, parce que les hommes avaient de nombreux moyens de réguler la sexualité de manière licite. Bien sûr la polygamie, le concubinage, et puis aussi l'existence d'un univers peu connu mais absolument passionnant de courtisanes traditionnelles dans lequel on retrouvait notamment déjà les danseuses. Pas seulement les danseuses, parce qu'il y avait aussi des poétesses, il y avait des chanteuses, il y avait des danseuses. Les courtisanes, c'était un monde à part, parce que c'était des femmes libres, c'était souvent des femmes savantes, et donc elles avaient une très grande liberté, malgré tout. Et elles disposaient d'un certain pouvoir, peut-être qu'elles avaient parfois même plus de pouvoir que les épouses. Mais c'est évidemment un autre débat. En tout cas, la prostitution existait fort peu, parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité, évidemment, à avoir une activité qui était jugée par le Coran et par les autorités coraniques des villes comme déviante. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que, effectivement, la colonisation a imposé une prostitution visible, publique, qui n'existait pas avant. Encore une fois, la prostitution existait, mais d'une manière très différente et de manière très, très majoritaire. Et donc, on a mis en place, comme d'ailleurs dans les métropoles coloniales, donc comme à Paris et dans les grandes villes de France, un réglementarisme qui avait pour vocation de créer l'espace paradigmatique de la prostitution à l'époque, qui était le bordel. Comme nous sommes dans des sociétés clivées du point de vue racial, eh bien, on a décidé de créer plutôt des maisons de tolérance dans les quartiers européens, pour les Européens, et puis des quartiers réservés dans les villes dites indigènes, pour les populations indigènes. L'objectif étant d'éviter que tout le monde se rencontre, ce qui est impossible, parce que la prostitution, c'est un formidable marché économique, et le marché prime sur tout, y compris sur le racisme. Paradoxalement. Donc, il y a quand même eu, bien évidemment, des transferts. La plus importante maison d'Afrique du Nord, la plus connue, la plus réputée, c'était le Sphinx d'Alger, qui était la plus grande tolérance, qui était une tolérance européenne, avec une clientèle seulement d'hommes européens, mais avec une population de prostituées mixtes, donc des femmes d'origine maghrébine, algérienne et marocaine, essentiellement.
Corps colonisé, celui des femmes, mais aussi celui des hommes. Je voudrais qu'on évoque comment la colonisation percute la masculinité des hommes autres, notamment au Maghreb, et ces discours d'infériorisation des hommes colonisés, et notamment ce fantasme de l'homme arabe qui, comme vous dites, aurait le pénis constamment hors du pantalon et le couteau entre les dents.
Oui, en fait, la masculinité des hommes colonisés a toujours posé évidemment un problème. Donc il faut la délégitimer d'une manière ou d'une autre, parce que la délégitimation de la virilité, c'est l'écrasement aussi de la possible résistance dans des sociétés qui sont sexistes et qui pensent que la résistance ne peut être évidemment qu'une résistance au masculin. Donc il faut écraser les hommes pour écraser leur capacité de résistance. Et donc, bien sûr, la virilisation est tout à fait importante. Et en même temps, l'homme arabe a toujours été une figure extrêmement fantasmatique, et dans les mondes hétéros et dans les mondes homo. Donc il faut faire cohabiter des choses un petit peu différentes. Et du coup,
il y a à la fois le trop viril,
voilà,
et
ça.
Le
donc,
pas assez.
En fait, la manière de déviriliser, elle est très simple, c'est de dire il y a un juste viril, qui d'ailleurs est le produit d'une construction sociale assez vigoureuse à la fin du XIXe siècle. On va domestiquer la virilité des hommes en France. Et à contrario, donc on va créer ce juste viril, qui est très... c'est difficile, le juste viril, il faut être trop ni trop peu. Bon, les Maghrébins, et particulièrement les Algériens, ne le sont jamais. ils sont toujours soit trop peu, donc dans ces cas-là, ils sont considérés comme des efféminés, qu'ils soient homosexuels ou pas, d'ailleurs, soit ils sont trop, et là, on les assimile de manière assez systématique à la prédation sexuelle, et donc, bien sûr, à la violence sexuelle. Mais, par exemple, ce qui s'est passé dans le débat sur les viols collectifs dans les quartiers il y a une quinzaine d'années, il ne faut pas croire que c'est un motif nouveau. Parce que lorsqu'on lit les textes de la conquête de l'Algérie au début du XIXe siècle, eh bien, on apprend, par exemple, dans un certain nombre d'ouvrages, que beaucoup d'auteurs pensent que le viol, je cite, « le viol est une distraction quotidienne des Arabes ». Donc cette idée de prédateur sexuel, évidemment, est extrêmement véhiculée, médiatisée, et je dirais d'autant plus, puisque son objectif aussi, c'est de faire peur aux femmes qui ne doivent absolument pas entrer en interaction avec ces hommes-là, donc aux femmes européennes dans les contextes coloniaux et puis aux femmes métropolitaines ici en France.
On a le même phénomène sur ce qu'on appelle les Sidi, donc ces ouvriers algériens des années 30 qui viennent de plus en plus s'installer en métropole, qui sont tantôt soumis, tantôt pas, aux politiques migratoires puisqu'ils sont français de fait. Et on a cette figure qui se construit à l'opposé du grand dadais sympathique et le tirailleur sénégalais, etc. On a cet homme qui est censé être fourbe, violent, voleur et surtout violeur. Et on veut éviter les couples mixtes. On a le phénomène dans les troupes coloniales avec la surveillance des soldats, puisqu'effectivement le courrier était surveillé, censuré, détruit s'il y avait une relation avec une Française en métropole. Et on a effectivement une administration de surveillance, disait-on sanitaire, notamment à Paris, mais qui avait pour but aussi d'éviter les contacts avec la population métropolitaine. Et déjà, c'est théorie des races qui va s'imposer dans les politiques migratoires au XXe siècle. Et donc on a ce transfert de cette figure voleur-violeur qui va presque comme en héritage marquer les générations d'après. Cet ennemi intérieur que va être le Félaga durant la guerre d'Algérie va être remplacé par le jeune de banlieue, cet ennemi public numéro un, Khaled Kelkal, etc., qui est prêt à se retourner contre la France et à être celui qui va être mis en scène dans les tournantes, dans les quartiers. Je pense qu'effectivement, il faut historiciser cette image stéréotypée raciste des hommes arabes dans notre société.
Pour vous, Naïma, c'est l'un des impacts les plus saillants de cette domination sexuelle et coloniale qui perdure aujourd'hui.
Je ne sais pas si on doit la hiérarchiser, mais effectivement, on disait, moi, sur la période que je connais le mieux, celle des années 80, cette génération beurre, on disait que la beurrette était l'avenir du beurre. C'était la formule consacrée dans un éditorial de Serge July dans Libération, qui disait que si on portait au nu les marcheurs de 83 pour cette fameuse marche qui avait rencontré l'opinion publique, on avait dit déjà que la génération des parents ne pouvait pas s'intégrer, contrairement à celle des enfants. Déjà, on opposait les hommes, puisqu'on ne parlait pas de leur femme. Plus invisible que l'immigré, c'était sa femme. On avait le travailleur immigré à moustache et avec le casque de chantier qui, lui, devait partir parce qu'il n'y avait plus de travail. Et on disait des beurs que ces êtres hybrides, cette génération pleine d'espoir pour l'intégration, qu'effectivement, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré de 83 à 86, pouvait être l'avant-garde d'une intégration à la française. Ensuite, on les a criminalisés, ces garçons, d'islamistes en voyous de quartier. Le seul espoir était les filles maghrébines. Où en est-on en 2020? Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la femme voilée qui va mettre à bas la République et ses valeurs. Ce n'est même plus le garçon, c'est cette femme qui a une pratique visible de sa religion, l'islam. Et donc la beurette n'est plus l'avenir du beurre, elle est dans le même bateau. Et c'est intéressant de voir comment ces oppositions de genre, ces stéréotypes voyagent d'époque en époque pour nous dire aussi l'intérêt pour nous chercheurs d'aller creuser ces imaginaires pour comprendre ce qu'il en reste aujourd'hui dans la perception de ces populations qu'on ne veut pas voir comme françaises.
Dans les couples mixtes aussi, je vais ajouter quelque chose, notamment dans l'entre-deux-guerres. Il y a bien sûr une délégitimation de l'homme indigène, comme on l'appelait encore à l'époque. Il y a une délégitimation du couple, mais il y a aussi une délégitimation des femmes françaises. qui ont passé la racial line, qui ont passé la ligne raciale, et qui se sont mis avec ces hommes, et dont dans les rapports, parce que ces couples, en tout cas en métropole, ces couples sont très suivis par les services sociaux, notamment, bien sûr, lorsqu'ils sont dans les classes populaires, et ils sont souvent dans les classes populaires, puisqu'il y a un double contrôle, hein, un contrôle de race, mais aussi un contrôle de classe. Et donc, ces femmes, en fait, sont délégitimées, alors, soit comme des prostituées, soit comme des femmes vicieuses, soit comme des semi-folles, soit comme des grandes enfants voilà, qui se sont retrouvées sans la tutelle protectrice d'un homme et qui, du coup, font n'importe quoi. Et donc, ces quatre niveaux d'argumentation sont très véhiculés. Or, quand on travaille un peu sur ces couples mixtes, bah, on se rend compte qu'ils sont tout à fait à l'inverse de ça. Si on prend l'un des plus emblématiques couples mixtes de l'entre-deux-guerres, Messali Hadj et Émilie Buscan, sa compagne, hein, puisqu'ils ne se sont jamais mariés, la mère de ses deux enfants métis, bah, on observe que cette femme avait non seulement la tête sur les épaules, mais qu'elle a largement contribué, qu'elle a pris sa part à la libération de l'Algérie aux côtés de Messali. Hein, donc bon, évidemment, c'est un couple singulier, mais je crois que quand on regarde les couples mixtes, on s'aperçoit que les choses sont bien différentes, justement, de cette vision très stéréotypée.
Vos travaux font référence, ou plutôt écho à la prise de parole, de conscience autour des violences sexuelles. Comment vous articulez l'une et l'autre, et ce sera ma dernière question, vos travaux avec le féminisme ?
Alors, moi, je les articule depuis l'origine, parce que ma première identité, la plus importante de mes identités, c'est l'identité féministe. Donc, pour moi, c'est un combat majeur. Et pour moi, d'ailleurs, le féminisme, c'est pas seulement une question de droits des femmes. C'est vraiment une question de droits humains globaux. Évidemment que le travail que je mène depuis plusieurs décennies maintenant se place dans une perspective féministe. Et bien sûr que les questions raciales font aussi écho aux questions de droits des femmes, puisque toutes les études sociologiques montrent que les femmes dites racisées sont beaucoup plus impactées par les violences sexuelles, par exemple, mais de manière générale, par la discrimination faite aux femmes. Parce que, bien sûr, elles cumulent plusieurs handicaps. Le fait d'être immigrée ou d'origine immigrée, le fait d'être femme, et puis le fait souvent d'appartenir aux classes les plus populaires des pays dans lesquels elles se trouvent. Et donc, bah, ne serait-ce que cette triple discrimination bah, fait que ce sont des femmes qui sont évidemment soumises à plus de violences. Mais j'insiste sur le fait que la violence sexuelle est aussi plus importante. C'est-à-dire qu'une femme maghrébine ou d'origine maghrébine en France a plus de chances d'être harcelée dans la rue, d'être violée, que d'autres catégories de femmes. Parce que tout cet univers fantasmatique dont on a discuté bah, travaille aussi les mentalités et font que les hommes ont tendance à penser que ces femmes sont plus accessibles sexuellement peut-être que d'autres.
Naïma ?
Alors moi, ça se manifeste plutôt sur un travail de patrimonial sur la place des femmes immigrées dans l'histoire de l'immigration, qui ont tendance à être oubliées du fait de la démographie masculine des flux migratoires, surtout pour les temps anciens. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, c'est même vraiment faux. Et notamment à travers la question des mobilisations sociales et les luttes. Elles sont souvent effacées des luttes. Et mon travail consiste à faire émerger des fonds d'archives et de poser une narration sur la place de ces femmes dans les luttes sociales. Je le fais aussi du point de vue culturel, en faisant émerger, je vous le disais tout à l'heure, ces figures féminines plus invisibles encore que leurs immigrés de mari. Et on se retrouve avec, par exemple, une parole féminine dans la chanson de l'exil. Et une dernière anecdote par rapport à ce que disait Christelle, si les couples mixtes angoissent les services sociaux, les couples mixtes, du point de vue des sociétés d'origine, les angoissent également sur la question de la dilution des mœurs, la rupture avec le collectif qui est le village, la famille et autres. Et certaines chansons immortelles, la chanson maghrébine de l'exil, chroniquent la Roumia, cette Française qui va leur voler leurs fils, leurs époux, leurs pères, pour qu'ils ne rentrent plus au village. Et c'est vraiment la Roumia va s'incarner dans la France, qui va avaler ces migrants qui ne reviendront plus alors qu'ils sont missionnés par un collectif pour survivre.
On pense à une chanson en particulier ?
Oui, je peux chanter, mais...
oui, chante.
Non, non, il y a une chanson très connue des mamans immigrées qui s'appelle Yarabi Sidi, une chanson de Noura qui dit, en ces termes, je vais le dire en français, « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cela ? J'ai élevé mon fils de mes mains et c'est la fille de la Française qui me l'a pris. » Cette chanson, c'est une adaptation d'une autre chanson beaucoup plus ancienne qui tenait le même discours, mais ce n'était plus la fille de la Française qui prenait les fils, c'était les autorités françaises. C'était une chanson qui a été écrite sur la conscription de 1912 et le départ pour le front en 14. Et ce n'était plus l'institution militaire qui prenait les fils, c'était donc les belles françaises, les concubines, qui peuplent les chansons de l'exil et qui sont les rivales amoureuses des femmes laissées au village.
Merci Naïma.
Merci.
Merci Christelle.
Merci à vous.
Je rappelle, Sexualité, Identité et Corps colonisé, c'est aux éditions du CNRS. À très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express sur Mediapart.